Alléluia. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous ce matin? Prenez votre Bible, dissociez ma Bible. Si vous n'avez pas la Bible, prenez la Bible de votre voisin, mais dissociez, est sa Bible. Sinon, on va devoir prier pour les menteurs ce matin. Amen. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux même faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je recevrai la semence incorruptible de la parole de Dieu qui entre dans mon cœur, porte du fruit, change ma vie et je ne serai plus jamais le même. Amen. Alléluia. Et dites à votre voisin, crois ce que tu viens de dire. Alléluia. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles où vous voulez ce matin. Oui, parce que j'ai découvert que dans le temps, on disait à quelqu'un, ouvrez votre Bible dans le psaume. On ouvre la Bible pratiquement au milieu de la Bible. Donc, je peux voir qu'ils ont bien ouvert dans les psaumes. N'est-ce pas? Si je dis Apocalypse, ce n'est pas le début, c'est à la fin de la Bible. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les gens ouvrent leur Bible dans leur téléphone. Je ne sais pas où ils vont l'ouvrir. Je ne peux pas le voir. Alors, je me suis dit, si les gens veulent ouvrir où ils veulent, ils n'ont qu'à l'ouvrir où ils veulent. Moi, je l'ouvre dans Matthieu chapitre 6. 7, pardon. Matthieu au chapitre 7. Alléluia. Vous avez les salutations de notre église à Bruxelles. Ah, pardon, Bruxelles. Bruxelles, c'était avant. Maintenant, je suis à Lugano, en Suisse, pardon. Pour ceux qui ne savent pas, je suis belge. Et un bon belge, je vous parle le belge. Hein. Un bon belge et fier d'être belge, d'ailleurs. D'origine italienne, et je vis donc en Suisse maintenant depuis à peu près 13 ans, 12-13 ans. Nous avons ouvert une église là-bas. Et Dieu est en train de faire des grandes choses dans l'église là-bas. Et on est vraiment heureux et fiers de ce que Dieu est en train de faire. Amen. En effet, comme l'a dit pasteur, mon épouse prend charge de l'église quand je ne suis pas là. D'ailleurs, je pense que même quand je suis là, elle prend charge de l'église. C'est comme un jour quand j'étais à l'école biblique, il y avait un couple qui était venu donner un témoignage. Ils avaient 85 ans tous les deux, 63 ans de mariage. Et le monsieur arrive, c'était un Américain, mais il parle un petit peu le français. Il dit « Oh, gloire à Dieu !» Et il commence à raconter qu'ils sont mariés depuis... Nous sommes mariés depuis 62 ans, ou 63 ans. « Oh, nous avons un grand mariage !» Et je vais vous donner, qui dit, les secrets pour un long mariage. Quand nous nous sommes mariés, nous avons pris la décision qu'elle prend les petites décisions et je prends les grandes décisions. Et nous sommes ici pour dire la gloire de Dieu. En 63 ans de mariage, on n'a jamais dû prendre de grandes décisions. À chaque fois qu'il voulait prendre sa décision, il disait, oh non, non, chouchou, c'est une petite décision, c'est pour moi. Non, non, chouchou, c'est une petite décision, c'est pour moi. Elle a dit amen. Donc, je ne suis pas certain, c'est qui gère l'église quand je suis là. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas ça qui compte, parce qu'on est un tous les deux. Amen. J'aime beaucoup, beaucoup ma femme. Elle est extraordinaire. D'ailleurs, il n'y a personne au monde qui est parfait, excepté ma femme. Elle est vraiment géniale. Amen. Je parle toujours de ma femme. Malheureusement, elle ne peut pas toujours venir avec moi. Très souvent, elle n'est pas avec moi. Mais je parle toujours bien de ma femme. Toujours, toujours, toujours. À un certain moment, ma femme a reçu, à cause de cela, elle a reçu un surnom. On l'appelle Madame Colombo. Comme l'inspecteur Colombo. Il parle toujours de sa femme, mais elle n'est jamais là. Et depuis qu'on l'appelle Madame Colombo, je dis toujours ceci, comme le lieutenant Colombo. Oh, quand je dirais ça à ma femme? Amen. Wow, vous avez trouvé Matthieu chapitre 7? Ah, quand même! 5 minutes pour que vous trouviez, c'est pas mal ça! Hein? Verset 26. Non, 24, excusez-moi. Matthieu 7, verset 24, c'est un passage qu'on connaît très très bien. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. C'est intéressant quand on lit ce passage, parce que c'est un passage qu'on connaît bien et on connaît très bien l'interprétation, à savoir celui qui bâtit sa vie sur le roc résiste à la tempête. Celui qui bâtit sa vie sur le sable ne résiste pas à la tempête. On est d'accord avec ça ? Et on comprend très bien dans ce passage, dans cette parabole, que bâtir sa maison sur le roc équivaut à mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Et aussi, bâtir sa maison sur le sable équivaut à bâtir sa maison, ou plutôt ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. N'est-ce pas vrai ? Et quelquefois, quand on parle de mettre la parole de Dieu en pratique, peut-être que quelquefois, on ne comprend pas bien, et on ajoute, alors on essaye d'interpréter correctement, et on dit, voilà, mettre la parole de Dieu en pratique, ça veut dire agir sur la parole de Dieu. On est d'accord ? Si la parole de Dieu dit, marche sur l'eau, qu'est-ce que vous allez faire ? Marcher sur l'eau, n'est-ce pas ? On met la parole en pratique, n'est-ce pas vrai ? Lorsque Pierre dit à Jésus, Jésus, si c'est toi, il le voit marcher sur l'eau. Si c'est toi, dis-moi, viens. Qu'est-ce qu'il va dire Jésus ? Viens. Et une fois qu'il lui dit, viens, qu'est-ce qu'il doit faire Pierre ? Il va marcher sur l'eau. Il met la parole de Dieu en pratique, n'est-ce pas vrai ? Et c'est important pour nous comprendre cela. Il faut que nous mettions la parole de Dieu en pratique dans notre vie de tous les jours. Peut-être qu'une autre manière aussi de voir ce mot-là, mettre en pratique, faire la parole, c'est un autre mot, peut-être le mot obéissance. J'obéis la parole de Dieu. Alléluia. Parce que vous, je peux mettre la parole en pratique sans obéir à la parole de Dieu. Rappelez-vous l'histoire, on en verra ça durant cette semaine, lorsque Saül va offrir des sacrifices alors qu'il ne doit pas le faire. Offrir des sacrifices, c'est toujours une bonne chose, sauf quand c'est une désobéissance. Amen. Il y a un moment où il faut offrir un sacrifice, mais il y a un moment où il faut obéir aussi. Il faut dire ce que Dieu a dit. Et rappelez-vous ce que Samuel va dire au roi Saül. Il va lui dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je crois que c'est demain soir que nous allons voir ensemble qu'est-ce que cette phrase veut vraiment bien dire dans notre vie de tous les jours. Regardez un petit peu avec moi les versets, à partir du verset 22. Regardez ça un petit peu. Faisons une connexion. Parce que le verset 24 commence par « c'est pourquoi ». Et savez-vous, quand le mot « pourquoi » est écrit dans la Bible, il faut savoir pourquoi c'est « pourquoi » là. Amen. Quand vous voyez « pourquoi » dans la Bible, il faut savoir pourquoi c'est là. Et le « pourquoi » va relier ce qui était avant avec ce qui est maintenant ou ce qui va suivre. C'est « pourquoi ». Il dit, mettez la parole en pratique. Donc, voyons ce qu'il dit avant, au verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend les paroles ou ces paroles et les met en pratique est semblable à l'homme qui construit sa maison sur le roc. Mais celui qui entend les mêmes paroles et ne les met pas en pratique, c'est-à-dire qui ne les obéit pas, cet homme est semblable à l'homme qui bâtit sa maison sur le sable. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu des maisons bâties sur le sable ? Ou sur, chez nous en Sicile, d'où je viens, la terre de mes ancêtres, nous avons des terres friables, des terres qui glissent beaucoup. On a énormément de glissements de terrain. Et il y a quelques décennies, je me souviens très bien de cette histoire-là, où quelqu'un avait son propre terrain et il avait construit sa maison sur ce terrain-là. Mais il y a eu un grand déluge. Et petit à petit, le terrain a commencé à glisser. Avec la maison dessus. Et le terrain a tellement glissé qu'il s'est retrouvé sur le terrain de quelqu'un d'autre. Et l'autre est devenu propriétaire du jour au lendemain d'une maison qu'il n'a même pas dû construire lui-même. J'aurais bien voulu avoir ce terrain-là, moi. Amen. Et il arrive comme cela, qu'on doit comprendre ce que tu es en train de dire au Seigneur. Il y a des gens qui font de bonnes choses. Regardez bien que dans cette histoire, tous les deux construisent la maison. Le problème, ce n'est pas la maison, c'est la manière dont ça a été construit. Peut-être même que toutes les deux avaient une maison très belle. Qui a bâti sa maison. Il dit, il a bâti sa maison. Et tous les deux avaient une maison. Jésus ne dit pas que l'une était plus belle que l'autre, que l'une était plus forte que l'autre. Dans l'apparence, elles avaient l'air toutes les deux les mêmes. Toutes les deux. Voyez-vous, ce n'est pas dans le fait que l'on construit quelque chose, mais bien plus dans le fait de la manière dont on construit la chose. Est-ce qu'on construit parce que Dieu nous a demandé de construire? Ou est-ce qu'on construit parce qu'on a envie de construire? Je me souviens très bien, le frère Hegui nous racontait ça, que quand il était tout jeune, il avait rencontré un serviteur de Dieu d'une trentaine d'années, c'est pas son âge, hein, c'est la motivation qui était derrière, et qui disait, il voyait quelqu'un faire quelque chose, un ministère faire quelque chose, il dit, ah ben moi je vais faire la même chose. Pas parce que Dieu lui avait demandé, mais simplement parce qu'il aimait ce que l'autre faisait. N'est-ce pas vrai? Hein? Et la Bible nous dit que grande sera la perte de ces personnes-là. Nous avons vraiment besoin de comprendre cela. Amen. Vous connaissez cette chanson? Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Vous ne connaissez pas? Les plus jeunes connaissent. Hein? Levez-vous avec moi, on va le chanter. Je vais vous l'apprendre. Come on, je vais vous apprendre ces beaux chants. All right, vous allez faire les gestes avec moi, d'accord? Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva, le vent souffla et la pluie tomba. Le vent, on va y aller. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva, le vent. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Et le vent! Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Amen! Vous chantez très très bien. Alléluia! Ce matin, le pasteur Réal m'a montré la chambre des ados de 6 à 12 ans. Et j'ai dit, bah, c'est ici que je dois aller ce matin. Peut-être que j'aurais dû vraiment y aller là. Alléluia. Mes amis, l'obéissance est une chose extraordinaire. Mais la désobéissance est pleine de tragédies. Amen. Un jour, il y avait un homme. Un homme qui était dans son bureau avec le pasteur. Et il racontait, « Oh, pasteur, vous ne pouvez pas vous imaginer combien je sais que Dieu m'a appelé à faire quelque chose pour lui. Dieu m'a appelé à me lancer dans le ministère. Mais, oh, pasteur, je ne peux pas le faire. » Et le pasteur dit, « Mais pourquoi tu ne peux pas le faire ? Oh, pasteur, il ne me reste plus que 2 ans à travailler. Et au bout de 2 ans, j'aurai une pension complète. Vous comprenez bien que je ne peux pas me lancer maintenant. » Et le pasteur dit, oh, « Ne fais pas ça, ne fais pas ça. » La Bible dit que Dieu est celui qui pourvoit. Amen. Même si ta pension ne sera pas autant que Dieu la voit, tu voudrais la voir, tu ne dois pas faire cela, tu dois obéir au Seigneur. Mais cet homme dit, « Oh non, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. » Et il ne l'a pas fait. Et au bout de quelques temps, oh, il a eu sa belle pension. Mais en même temps, sa famille a été ruinée. Sa carrière a été ruinée. Sa santé a été ruinée. Mes amis, c'est une tragédie de vivre dans la désobéissance. Alléluia. C'est une tragédie de vivre dans la désobéissance. C'est une tragédie de ne pas servir le Seigneur. C'est une tragédie de ne pas aller avec Dieu quand Dieu nous demande d'aller avec lui. J'ai vu beaucoup de gens. Vous savez, ça fait pratiquement 34 ans ou 35 ans que je suis dans le ministère. Et avant ça, je n'étais pas stupide. J'avais 12 ans, 12 petites années. Et je servais Dieu dans mon église autant que je pouvais. Et un jour, je rencontre un homme qui entre dans l'église. Il était grand. Moi, j'étais tout petit. Honnêtement, à 12 ans, j'étais encore petit comme ça. J'étais sicilien. Vous savez pourquoi les Italiens sont toujours tout petits? Parce que papa dit, quand tu seras grand, tu iras travailler. C'est pas vrai. Et là, je suis là devant cet homme, il faisait au moins 1m80. Et je parle avec lui, il entre dans l'église, je me dis, c'est à nouveau, je vais dire bonjour. Et il me dit, oui, je suis évangéliste. Ah, excellent. Oui, et j'étudie pour devenir en fait évangéliste. Excellent. Vous allez dans une école publique? Non. J'étudie par correspondance. Excellent. Il y a des bonnes écoles par correspondance, il n'y a aucun problème. Ah, waouh. Oui, je vais devenir évangéliste. Je vais voyager dans le monde entier. Excellent. Et vous allez où à l'église? Ah, je ne vais pas à l'église. Cet homme avait 35 ans passés et il n'allait pas à l'église. Et à moi, dans ma petite tête d'un garçon de 12 ans, je lui dis ceci. Monsieur, si vous dites que vous allez être évangéliste et vous n'allez pas à l'église, je ne vous donne pas 2 ans pour que personne ne vous connaisse jamais. Il m'a regardé comme ça. Oh, t'es un petit enfant. Mais la Bible dit que Dieu révèle la vérité par la bouche des petits-enfants. Alléluia. Aujourd'hui, vous savez comment il s'appelle? Moi non plus. Alléluia. Je ne dis pas que Dieu ne l'avait pas appelé, bien au contraire. Je suis même convaincu que Dieu l'avait appelé. Le problème, c'est qu'il voulait faire cavalier solitaire. Il voulait faire le lonesome cowboy. I'm a lonesome cowboy. Et je vais tout seul. Un peu comme Lucky Luke. Vous savez que la Bible dit clairement que dans la fin des temps, il ne peut plus y avoir de cowboy solitaire. Oh! Hébreux 10:25 dit « Et n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. » Alléluia! Ceux qui abandonnent les assemblées et qui ne vont plus à l'église, ce sont des cow-boys solitaires qui essayent de tirer plus vite que leur ombre. Et qui ne vont nulle part. Alors, on ne dit pas ça pour dire du mal de quelqu'un, bien au contraire. Mais l'obéissance est tellement importante devant le Seigneur. Amen. La Bible dit, entrez dans l'église et soyez dans l'église. Vous savez, certains me disent, « Oh, mais moi, je n'ai pas trouvé la bonne église. » Moi non plus. Moi non plus parce que je n'ai jamais cherché mon église. Amen. La Bible dit que personne n'est allé chercher une église. La Bible dit que Dieu nous a placés dans l'église. Alléluia. Amen. Hein? Et quand quelqu'un vient chez moi et dit « Pasteur, je n'ai pas encore trouvé la bonne église », je dis « Reste pas ici, va-t'en. » Parce que si Dieu ne t'a pas passé ici, ça ne sert à rien que tu viennes ici. Amen. Ou en tout cas, si tu n'es pas convaincu que Dieu t'a placé ici. Moi, je suis convaincu que Dieu m'a placé dans l'église où j'étais de tout petit et j'ai grandi, puis là où le Seigneur m'a envoyé pour travailler, etc. et tout, dans l'église dans laquelle je suis maintenant. Amen. Mes amis, il y a une grande bénédiction et de grandes bénédictions quand on sert le Seigneur et quand on obéit le Seigneur. Mais il y a tellement de tragédies quand on désobéit le Seigneur. Amen. Mais il y a aussi des bénédictions. Une autre situation similaire à la précédente. Mais c'est un homme qui vient devant chez son pasteur. Il dit, pasteur, je sais que Dieu m'a demandé de faire quelque chose. Et il lui dit, mais quoi ? Dieu m'a demandé d'ouvrir une église et je dois y aller. Et le pasteur dit, ok, mais si Dieu te le demande et je le crois aussi, on va prier ensemble et on va te lancer. Je sais, pasteur, mais tu sais, dans quelques temps, c'est la pension. Mais le pasteur dit, ne te laisse pas diriger par la pension. La Bible ne dit pas que tous ceux qui sont dirigés par leur retraite seront guidés par l'Esprit de Dieu. Non, ce sont ceux qui sont dirigés par le Seigneur et par le Saint-Esprit. Amen. Ah, il a dit, oh merci pasteur, vous avez confirmé dans mon cœur ce que Dieu m'avait dit. Amen. Et il est parti, il a ouvert une église. Et cette église, en moins de 4 années, est devenue une grosse église avec des centaines et des centaines de gens qui venaient chaque dimanche à l'église. Waouh, pourquoi ? Parce qu'il avait obéi le Seigneur. Amen. Cet homme-là avait 3 enfants. Tous les 3 atteints d'une maladie incurable. Mais quand il a mis la parole en pratique et il a obéi le Seigneur, chacun de ses enfants a été guéri. Alléluia ! Alléluia ! Des gens viennent chez moi et me disent, pasteur, je fais tout ce que Dieu me dit. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je suis généreux, je viens à l'église, et puis ils me racontent toute la liste des choses qu'ils font. Mais je ne suis toujours pas béni, pasteur. Ah, vous savez à quoi ça me fait penser à ça ? Ça me fait penser à un jeune homme qui est venu vers Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ? Et Jésus lui dit, voici ce que tu dois faire. Mais je fais toutes ces choses. En fait, Jésus lui dit, voici la liste des choses que tu dois faire. Mais je fais ces choses. Et puis Jésus lui dit, tu sais quoi ? Il te manque encore une chose. Écoutez, la vie de l'obéissance, souvent, elle est fondée sur cette petite chose qui manque. Amen. Oh, je peux faire toutes les bonnes choses, mais il y a une petite chose qui manque. Peut-être que vous vous rappelez de cette histoire, vous avez entendu cette histoire, c'est une histoire d'un pasteur aux États-Unis qui pendant des années avait une petite église de 10-12 personnes, pas plus. Et cet homme était toujours là devant Dieu et il disait, Seigneur, Seigneur, envoie-moi où tu veux, j'irai, mais pas en Afrique s'il te plaît. Et pendant des années, il a prié la même chose. Et Dieu lui dit, es-tu prêt à aller en Afrique pour moi ? Oh Seigneur, envoie-moi où tu veux. J'irai là où tu voudras, mais pas en Afrique. Et constamment, il remettait sa vie entre les mains du Seigneur. Un homme de Dieu extraordinaire. Seigneur, j'irai où tu veux, mais s'il te plaît, pas en Afrique. Et puis régulièrement, le Seigneur dit, serais-tu prêt à aller en Afrique ? Oh Seigneur, envoie-moi où tu veux, mais pas en Afrique. Et au bout de 10 ans, au bout de 10 ans, il a cédé devant Dieu. Et vous, notre relation avec Dieu, c'est la même chose que la relation entre nos enfants et les parents. Quand on élève nos enfants, quelqu'un doit céder. Le mieux, c'est quand les enfants cèdent. Parce que si vous, les parents, vous cédez devant vos enfants, c'est eux les patrons. C'est eux qui font ce qu'ils veulent. Amen. Et donc là, finalement, au bout de 10 ans, il dit, Seigneur, j'en ai assez, je sais ce que je dois faire. Tu peux m'envoyer en Afrique, envoie-moi en Afrique. Et Dieu lui dit, mais je ne t'ai jamais demandé d'aller en Afrique. J'ai demandé si tu étais prêt à le faire. Pendant 10 ans, Seigneur, je ne veux pas aller en Afrique, envoie-moi partout, pas en Afrique. Je ne t'ai jamais demandé, je t'ai toujours demandé, es-tu prêt à aller en Afrique pour moi ? En d'autres mots, es-tu prêt à me donner tout ton cœur, toute ta vie ? Amen. Et ce jour-là, cet homme-là s'est complètement rendu au Seigneur et il a compris que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, que obéir Dieu, c'est beaucoup mieux que de faire sa propre volonté. Amen. Et Dieu ne l'a pas envoyé en Afrique, mais là où il est resté, Dieu l'a rendu prospère à tous les niveaux, au niveau de l'Église où tout d'un coup, des dizaines et des dizaines, puis des centaines de gens sont venus et entrés dans l'église. Dieu les a placés. Dieu nous place là où il sait qu'on va grandir dans l'obéissance. Amen. Par exemple, vous êtes dans une église où on vous enseigne l'obéissance. Mais non, je n'ai jamais entendu pasteur parler d'obéissance. Mais moi, je vous suis en train de parler d'obéissance. Mais bien sûr que le pasteur parle d'obéissance. Amen. Vous êtes dans une bonne église où Dieu va vous faire grandir. Ah oui, mais tu sais... Non. Arrête toujours voir les autres. Regarde-toi-même un peu. Peut-être que Jésus est en train de dire, il te manque une petite chose. Il y a encore une chose qui te manque. Dans le cas de ce jeune homme riche, Jésus va lui dire, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors, je ne sais pas pour vous, il a été offensé, cet homme-là. Vous vous rappelez l'histoire ? Il s'en va offensé. Et c'est facile pour moi de le parler comme ça, parce que je ne suis pas aussi riche que lui. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place, je dis la vérité. Mais je peux vous dire une chose. La Bible dit ceci, que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et quand moi je donne aux pauvres, et régulièrement, je peux vous dire, Dieu a des dettes envers moi. Alléluia ! Amen ! Hein? Et vous aussi, lorsque vous faites ça, si vous donnez aux pauvres, mais pas le pauvre que vous voyez n'importe où, hein, le pauvre que vous connaissez, le vrai pauvre, parce qu'il y a des vrais pauvres et des faux pauvres. Mm-mm. Comme il y a des vrais prêtres et des faux prêtres. Mm-mm. D'ailleurs, on dit, l'habit ne fait pas le moine. Mm-mm. N'est-ce pas ? Hein? D'ailleurs, la grosse voiture ne fait pas le riche non plus. Quelqu'un peut avoir une grosse voiture et n'est pas riche. Hein? Et donc, on doit vraiment savoir à qui on donne quand on donne aux pauvres. La meilleure manière, pour moi, en tout cas, dans mon expérience, c'est que quand j'ai des doutes, je pose la question à mon pasteur. Je dis, tiens, il y a quelqu'un dans l'église qui, je vois qu'il y a des problèmes financiers, est-ce que vous êtes d'accord si je l'aide financièrement ? Amen. Parce qu'il y a des gens, vous serez étonnés, qui, comme dans la rue, demandent toujours de l'argent, des fois dans les églises, ils demandent toujours de l'argent. Mais vous ne savez pas que peut-être une semaine plus tôt, ils ont été chez le pasteur et le pasteur a donné autant d'argent. Mm-mm. L'autre jour, j'étais à l'aéroport et je me suis laissé avoir. Je dis la vérité, je me suis laissé avoir. Je ne me suis pas laissé diriger par le Saint-Esprit. Ça peut arriver, ça aussi, même au pasteur Donato. Il y a quelqu'un qui me dit, oh, il était 6 heures du matin, oh, à l'aéroport à Milan, oh, qui dit, je viens d'une telle ville et j'ai plus d'essence, est-ce que vous avez 5 euros ? Et j'étais tellement gentil, je lui ai donné 10 euros. Mais une fois que je lui ai donné 10 euros, il est allé vers quelqu'un d'autre, oh, bonjour, je suis... Puis je me suis retrouvé dans un autre parking, toujours à l'aéroport, il y a plusieurs aéroports, plusieurs terminaux, et je le vois dans l'autre terminal, et il va de nouveau demander l'argent. Alors là, je crie sur lui, je dis, ah, tais-toi, tu n'as pas fait ça ! Et là, il s'est enfoui directement. Il y a des gens qui sont de vrais voleurs. Amen. Hein? Et il y a des gens qui ne le sont pas. Et c'est quand Dieu dit qu'il donne aux pauvres, il est en train de parler à ces gens-là qui sont des vraies personnes, qui ont vraiment des difficultés. Et c'est important de donner aussi aux pauvres. Amen. Alléluia. Hein? Mais Jésus dit ici, voilà, il y a de l'obéissance. Pardon, l'obéissance rapporte. Amen. Dites avec moi, l'obéissance rapporte. Il y a des bénéfices dans l'obéissance. Amen. Ouh, alléluia. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dis avec moi, Dieu aime tout le monde. Et il y avait une femme baptiste. Dites avec moi, Dieu aime les baptistes. Dieu aime tout le monde, alléluia. Il y avait cette femme baptiste qui, vous savez, vient d'une église, dans cette église en tout cas, ils ne croyaient pas dans les charismes de l'esprit comme nous. Oh oui, quand vous leur dites don du Saint-Esprit, ils vont dire, c'est vrai, c'est biblique. Quand vous dites baptême dans le Saint-Esprit, ils vont dire, bien sûr, la même chose, mais ils veulent dire autre chose. Mm-mm. C'est comme le mot serviette en français. C'est quoi une serviette ? Hein ? Une serviette pour s'essuyer ? Absolument. Mais il y a aussi des serviettes pour... Par exemple, en Belgique, la serviette, c'est pour laver, essuyer la vaisselle. Mais il y a aussi une serviette pour s'essuyer. Mais il y a aussi une serviette pour mettre ses affaires dedans. Imaginez-vous le quiproquo. Et il prit sa serviette, et il entra dans le compartiment du train, il s'assied sur sa serviette, puis il ouvre la serviette, et il prend sa serviette... Ensuite, il met la serviette sur ses genoux. Il ferme sa serviette et commence à manger et reprend dans sa serviette une autre serviette pour s'essuyer la bouche. C'est compliqué tout ça. C'est le même mot, mais c'est des choses différentes. Il s'assied sur la serviette, une vraie serviette, comme ça. Hein? Puis il prend sa serviette, sa valise, si vous voulez, et il prend dans la serviette une autre serviette. Et donc, cette femme, bien sûr, quand vous lui parlez du baptême dans le Saint-Esprit, ça voulait dire quelque chose pour elle. Quand vous parliez des dons de l'Esprit, ça voulait dire quelque chose pour elle. Et elle vient là, elle est malade, une maladie incurable, vraiment incurable. Elle était sur chaise roulante en raison de maladies de rhumatisme. C'est un peu plus compliqué, ça, pour moi. Je ne suis pas médecin, heureusement. Hein? Et donc, elle arrive dans l'église et le pasteur lui dit, « Veux-tu être guéri ?»« Ah, maman, je suis baptiste, » qu'elle dit. « Je ne demande pas si tu es baptiste, je demande si tu veux être guéri. Est-ce que tu es sauvé ?»« Mais je suis baptiste, » qu'elle dit. « Non, pas si vous êtes baptiste, je demande si vous êtes sauvé. Est-ce que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit ?»« Ah, je suis baptiste, » qu'elle dit. Et puis finalement, il lui raconte comment être guéri. « Est-ce que vous croyez que vous pouvez être guéri ce matin ? Est-ce que vous croyez que vous pouvez vous lever de cette chaise roulante ? Est-ce que vous croyez que lorsqu'on vous imposera les mains, vous serez guéri ?» Et alors là, elle n'a pas dit « Je suis baptiste ». Elle a dit « Je vais croire ce que la parole de Dieu dit. Amen. » Et la Bible dit donc, et donc cet homme a imposé les mains sur cette dame, et tout d'un coup, elle s'est levée de sa chaise roulante. Et elle a été complètement guérie. Amen. Mais imaginez-vous, qu'elle se serait dit « Ah non, ah non, ah non, moi je suis baptiste. Moi je ne crois pas dans ces choses. Imposer les mains sur les malades, mais je suis baptiste moi !» C'est presque si elle disait « Ma religion me l'interdit. » Non, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a obéi la parole de Dieu. Elle a cru que la parole de Dieu était vraie pour elle aussi. Elle a cru, quand le pasteur l'a dit « Je vous imposerai les mains et je vous dirai « Levez-vous. » Et au moment où elle a dit « Lève-toi », où le pasteur a dit « Levez-vous », elle s'est levée. Elle a dit, s'il me dit « Lève-toi, je vais me lever. Sur ta parole, dit l'apôtre Pierre, je jetterai le filet. » Et il a récolté une grande récolte de poissons. Amen. Oh, que ça paye d'obéir. Amen. Ça rapporte d'obéir. Alléluia. Hein? Dieu lui avait dit, si tu vas dans cette église où on prêche le plein évangile, tu seras guéri. Et elle est allée, même si sa dénomination disait « Ne va pas là ». Alléluia! Amen! Amen! Alléluia! Et elle a été complètement guérie. Voyez-vous, il y a tellement de bénéfices quand on prie, quand on obéit le Seigneur. Pour ceux d'entre vous, vous connaissez l'histoire peut-être de ma fille Gabriella qui est née handicapée, ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas parler. Et vers l'âge de 14-15 ans, elle aurait dû mourir. D'une manière très longue, je n'ai pas le temps d'expliquer cela, mais elle a été complètement guérie par le Seigneur. Amen! Il y a à peu près 3 ans, un collègue en Italie, un pasteur américain, un missionnaire, j'apprends que sa fille est enceinte et qu'elle a le même virus que ma femme avait lorsqu'elle avait ma fille dans son ventre. Et le Seigneur me dit, téléphone-leur. Oh, des fois, on se dit, ça marche une fois, je ne suis pas certain que ça marche une deuxième fois. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur ? Et vous savez quoi ? J'ai obéi. Alléluia. Et j'ai téléphoné. Et j'ai parlé avec la maman, ma collègue et son mari. Et j'ai expliqué toute l'histoire de Gabriella. Et je lui ai expliqué ce qui se passe, comment Dieu l'avait guérie. Cette enfant était enceinte. Vous savez que le médecin avait dit à la fille, vous devez avorter. Il n'y a aucun remède contre ce virus. Et vous devez avorter. Et on lui a dit, si vous n'avortez pas, vous n'êtes pas une bonne maman. Vous êtes cruelle envers votre enfant. Jamais votre enfant sera heureux. D'abord, qui te l'a dit ? Hein ? Qui vous a dit que ces enfants ne sont pas heureux ? La Bible dit que les enfants sont une bénédiction. Amen. Les enfants, dès qu'ils naissent, ils rient. Ils rigolent. Amen. J'étais avec... l'enfant, cette semaine aux États-Unis, avec l'enfant du fils d'une de nos amies, l'enfant a à peine 1 an, et je parlais son langage. Oui, il y a des gens qui ne croisent pas ça. Mais moi, je parlais le langage de l'enfant. Les parents étaient comme ça. Oh, on n'a jamais vu ça. Alors, j'arrive devant l'enfant. Elle a un an. Ayala, elle s'appelle. Et j'ai commencé à dire. Elle me regarde et commence à rire. Et puis, je continue. Et puis, elle est comme ça, en train de rire. Les parents n'avaient jamais fait comme ça. Jamais. Mais j'ai dit, essaye. Oh non, 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 c'est pas pour nous ça. Et écoutez, les enfants aiment rire. Alléluia. Ils sont heureux, les enfants, qu'ils soient en bonne santé ou pas en bonne santé. Alléluia. Souvent, c'est nous qu'on dit, oh, ils vont souffrir, oh, ils vont souffrir. C'est peut-être vrai qu'ils vont peut-être avoir des douleurs s'ils sont malades, etc. et tout. Mais chaque instant de vie est une bénédiction de la part du Seigneur. Amen. Et donc, je parle avec cette maman et je raconte l'histoire. Pendant que je raconte l'histoire, elle pleure. Elle est tellement émue. Elle dit, Donato, je vais de ce pas téléphoner à ma fille. Et elle téléphone à sa fille. Et puis, au bout de quelques heures, dans la même soirée, elle me téléphone. Elle dit, tu sais, tu ne peux pas imaginer le bien que ça fait ma fille. Certes, ma fille, elle est pasteur, donc sa fille est chrétienne, comme vous et comme moi, avait déjà dit au médecin, je n'avorterai pas, je crois dans la vie. Amen. Et nous croyons dans la vie. Nous croyons que quand il y a de l'espoir, il y a de la vie. Amen. Et quand il y a de la vie, il y a aussi de l'espoir. Alléluia. Hein? Mais elle a dit ceci. Oh, mais tu sais, pasteur, qu'elle a dit, ma fille, mon enfant, quand il naîtra, soit ce sera Gabriel, soit Gabriella. Alléluia. Guéri ou malade. Gabriel ou Gabriella ? Eh bien, vous savez quoi ? Gabriel est né en bonne santé. Complètement guéri. Alléluia ! Mais aujourd'hui encore, je me pose la question. Mais si je n'avais pas oublié le Seigneur ? Si je n'avais pas donné une lueur d'espoir dans le cœur de cette maman ? Peut-être que cet enfant serait malade. Cet enfant a 2 ans maintenant. Peut-être qu'à l'âge de 14-15 ans, cet enfant serait mort à cause du fait que je n'aurais pas obéi. Mes amis, ça rapporte d'obéir. Ça rapporte de marcher dans l'obéissance. Et voyez un petit peu. Ouvrez et allez voir dans l'Internet. Vous n'allez voir aucune guérison du CMV. Le CMV, c'était la maladie, le virus que Gabriela avait, le cytomégalovirus. Aucun. Il y a quelque temps, j'étais dans le Minnesota. Et j'avais une grande réunion, on était plusieurs milliers de gens. Et je prêche pendant la réunion. C'est extraordinaire. Vraiment, on a été bénis. On a eu beaucoup de gens qui ont été guéris. Des gens en chaise roulante qui ont été guéris. Mais à la fin de la réunion, une dame vient vers moi en pleurant. Elle me raconte, j'ai un fils de 3 ans qui a le CMV, comme vous, comme votre enfant l'avait. Et elle pleure, parce que l'enfant, elle sait très bien, ne marche pas, ne parle pas, a des problèmes de motoricité et vers l'âge de 14-15 ans doit mourir. Ils me disent que vous pourriez prier pour cet enfant. L'enfant n'était pas là. J'aurais pu dire, ah, écoutez, si votre enfant n'est pas là, je n'y vais pas, hein, je ne prie pas. Et là, tout d'un coup, le Seigneur me dit, attends. Il n'y a pas de distance qui soit trop grande pour Dieu. Alléluia. Et dans mon cœur, le Seigneur m'a dit, prie pour cet enfant. Et j'ai prié pour l'enfant. Il n'était pas là, mais j'ai prié. J'ai prié la prière de la foi. C'est une prière qu'on prie une fois. Et on croit que c'est fait. Amen. Et je suis parti. Et vraiment, pour moi, j'ai prié, j'étais convaincu que c'était fait, mais je n'ai jamais entendu. La dame m'a dit, elle n'avait jamais entendu le témoignage de quelqu'un atteint du CMV et qui avait été guéri. Jamais. Rien que ça était suffisant pour m'empêcher de prier. On me dit, oh, je vais quand même pas commencer. Amen. Je vais comment ? Imagine-toi que ça ne fonctionne pas. Et une chose qu'on doit toujours se rappeler, c'est que quand on prie pour quelqu'un, on ne doit pas se poser la question si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. De toute façon, ce n'est pas nous qui guérissons, c'est lui qui guérit. Nous, on doit faire ce que la Bible nous dit. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia ! Amen. Et c'est qui guérit ? C'est quand même pas vous. Même pas les médecins guérissent. Je ne sais pas s'il y a des médecins ici, ne vous offensez pas. J'ai un de mes amis, c'est un très, très grand médecin en Suisse. un génie. Et un jour, j'étais dans une grande réunion, je lui dis, les médecins ne guérissent pas, ils aident à guérir. Ils me regardent. Je ne suis pas certain. Mais on a beaucoup parlé ensemble pour qu'ils comprennent ce que je veux dire. Les médecins, personne ne sait comment la guérison s'effectue. On sait qu'il y a certaines choses, quand ils vont ensemble, ça fonctionne, mais on ne sait pas pourquoi. Écoutez, les médecins vont aider à guérir, mais le vrai guérisseur, c'est l'Éternel. C'est Dieu, et Dieu tout seul. Amen. Alléluia. D'ailleurs, si les médecins savaient guérir, tout le monde serait guéri. Je l'ai eu là. Amen. Mais les médecins, un vrai médecin, un bon médecin, sait que ce n'est pas lui qui guérit. Il va tout faire pour aider. Il va faire pour créer l'atmosphère juste, la situation juste. Par exemple, s'il y a de l'infection, on sait que l'infection peut empirer la chose. Donc, il va s'arranger pour qu'il n'y ait plus d'infection. Mais le travail dans la guérison, là, la cicatrice, ce n'est pas le médecin qui le fait. C'est les filles, c'est toutes ces choses là-dedans qui troublent. D'ailleurs, quand ça gratte, c'est pas que ça gratte. Ce sont toutes les petites choses à l'intérieur qui viennent et qui commencent à... J'ai oublié comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais qui viennent faire les cicatrices. Dieu dit, allez, et ils vont. Amen. Et donc, j'ai prié pour cet enfant. 2 ans plus tard, je suis dans le Wisconsin et je mange. Je mange avec les gens qui avaient organisé cette conférence au Minnesota. Et puis, on mange, ils me disent, Donato, est-ce que tu as entendu la bonne nouvelle? Je dis, mais quelle bonne nouvelle? Et puis, il me rappelle de l'histoire de cette dame avec l'enfant qui a le CMV. Et il me dit, ah oui, maintenant je me rappelle. Je dis, mais vous savez, j'avais prié la prière de la foi. Ça veut dire que j'ai prié une fois et j'ai remis ça dans les mains du Seigneur. Amen. Je ne dis pas qu'il faut toujours prier la prière de la foi. La Bible parle de la prière de la foi, mais dit de diverses sortes de prières. Quelquefois, il y a une persévérance aussi. Mais dans ce cas-là, pour moi, l'affaire était réglée dans mon cœur. Et il me dit, la femme nous a téléphoné il y a 10 jours. Et elle a dit, s'il vous plaît, dites au pasteur Donato, dès que vous le voyez, mon fils est totalement guéri. Alléluia! Mais imaginez-vous que je n'avais pas obéi. Ça, c'est le ciel qui dit Amen. Alléluia! Praise the Lord! Gloria a Dio en italien. Amen. Mais imaginez-vous si je n'avais pas obéi. Et imaginez-vous si je n'avais pas fait cela. Oh, mais pasteur Donato, c'est parce que vous êtes un pasteur de Dieu. C'est parce que vous avez l'onction de Dieu sur vous. Et toi, tu n'as pas l'onction de Dieu sur toi? La Bible dit, nous avons tous reçu une onction. Amen. Et en ce qui concerne la guérison, il n'y a même pas d'excuse. La Bible dit, et voici les signes qui accompagneront les pasteurs. Ah bon. Et voici les signes qui accompagneront les évangélistes. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, vous et moi. Alléluia! Vous et moi. Et je crois qu'une des choses les plus belles quand je voyage, c'est de voir des personnes qui apparemment n'ont pas de ministère. Des personnes qui sont, entre guillemets, membres d'église, mais qui osent obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand il dit « voici les signes », j'aime beaucoup la suite. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Il n'est pas dit « et ils seront guéris ». Il y a des gens qui pensent comme ça. Ils pensent « waouh, je vais marcher, je crois ». Et tous ceux à côté de qui je marche seront guéris. Non ! Hello ! Ceux qui auront cru vont faire quelque chose. Alléluia ! Écoutez, il est impossible de croire sans faire. On ne peut pas croire sans agir sur ce qu'on croit. Alléluia ! On ne peut d'ailleurs pas croire sans obéir. Dieu recherche des hommes et des femmes qui croient ce qu'il dit et qui font ce qu'il dit. Alléluia. Chez nous, notre mot d'ordre, ordre de marche cette année, c'est « faites tout ce qu'il vous dira ». Waouh ! Lorsque Marie est aux noces de Cana avec Jésus et ses disciples, et qu'il manque du Coca-Cola américain. En Europe, c'est du vin. Mais d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi dans la Bible en anglais, ils n'ont pas marqué Coca-Cola. Vous savez, non, mais vous comprenez, vous devez comprendre ces choses. Par exemple, en Chine, à l'époque où les missionnaires ont commencé à traduire la Bible en chinois, ils ne connaissaient pas le pain. Tout ce qu'ils connaissaient, c'était le riz. Donc, ils n'écrivaient pas « Jésus est le pain de la vie », ils écrivaient « Jésus est le riz de la vie ». Oh ! Comme dans certains endroits de l'Afrique, ils n'ont jamais vu de la neige. Donc, quand il est marqué qu'on sera blanc, plus blanc que la neige, ils n'ont jamais vu la neige, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ils traduisaient « et blanc, plus blanc que le coton de la laine » ou « la laine des moutons ». Pourquoi les Américains n'ont pas marqué « et Dieu changea l'eau en Coca-Cola » Pourquoi ils n'ont pas écrit « et c'était beaucoup mieux de ne pas prendre du Coca-Cola en excès ». Trop de Coca-Cola enivre. Et il m'arrive à voir les gens dire « faites tout ce qu'il vous dira ». Hallelujah, ils ont pris, ils ont puisé et ils sont partis. Amen, ils ont puisé, ils ont pris et ils sont partis. Amen, et ils ont apporté. Et Dieu nous demande aussi « faites tout ce qu'il vous dira ». Faites tout ce qu'il vous dira. Et donc, une des choses que je vois le plus beau, c'est quand je vois des personnes qui osent croire ce que la Bible leur dit. Et ils imposent les mains aux malades et les malades sont guéris. Et vous savez que vous, apprenez ça dès le plus jeune âge à vos enfants. Dès le plus jeune âge, dès que vos enfants commencent à avoir de la conscience qu'ils peuvent faire quelque chose, 3-4 ans, dites-leur, priez pour moi. Amen. Ne leur dites pas, c'est grâce à ma foi. Peut-être que c'est grâce à votre foi, mais laissez-les faire quand même. Donnez-leur les pratiques, les habitudes, des choses de la Bible. Amen. Et vous, je vous assure, la puissance de Dieu est réelle. Un jour, j'étais devant une femme. Elle était aveugle d'un œil. Un des yeux était complètement abattu. Je crois que c'était l'œil gauche. Oui, l'œil gauche. À un certain moment, tout d'un coup, il y a eu un éclatement dans l'œil et tout d'un coup, c'était tout noir. Et c'est une dame d'une cinquantaine d'années, peut-être maintenant 60 ans, à ce moment-là, pardon, et quand je la vois, et elle m'explique qu'elle est allée chez le médecin, impossible de recouvrer la vue pour cet œil-là. Et je lui dis, madame, est-ce que vous voulez recouvrer la vue? Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore dit? Elle me dit oui. Pourquoi elle n'a pas dit non? Alléluia, elle a dit oui. Alors je commence à prier pour elle. Et je dis, je prie pour elle, puis tout d'un coup je dis, mettez votre main sur l'œil qui fonctionne. Ouvrez l'autre. Est-ce que vous voyez? Rien. Je dis, on va prier encore une fois. Jésus a prié une fois. On va prier une deuxième fois. Et je prie encore toutes les prières que je connais. Mettez votre main sur l'œil qui fonctionne bien. Et qu'est-ce que vous voyez? Rien. Mais le Seigneur me dit, continue à prier pour elle. L'obéissance rapporte, mes amis. Et donc, je prie encore pour elle. Deux fois, trois fois. Tout d'un coup, elle me dit, oh, je vois une lumière. Je dis, c'est pas mal ça. Oh, ça fonctionne. Et je prie de nouveau. On va continuer, madame. Qu'est-ce que vous voyez? Oh, c'est beaucoup plus clair maintenant. On va continuer à prier pour vous, madame, d'accord? Et je continue à prier. Et pour écouter, oh, je vois des silhouettes. Oh, c'est génial. J'ai dit, madame, on va continuer à prier ensemble, d'accord? Faisons ce que la Bible dit. Voici les signes de ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Puis tout d'un coup, elle dit, oh, je vois un homme et je vois une femme. L'homme, c'était moi, attention, hein. La femme, c'était celle qui était à côté de moi. Excellent, je dis. Vous voyez bien? Non, je ne vois pas encore très bien. On continue. Et je prie, je mets là. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Ah oui, je vois mieux un homme, encore mieux une femme. Et on continue. Tout d'un coup, je dis, oh, c'est super, je vous vois. C'est bien, est-ce que je suis beau? Non. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu es certain que c'est toi qui es en train de faire ça? Madame, je suis beau, je suis né beau, demandez à ma maman. Ah non, mais c'est bon comme ça. Non, 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 c'est pas bon comme ça. C'est bon pour vous, mais pas pour moi. Je suis né beau. Alors je prie encore pour elle. Comment ça va? Ah, vous êtes un petit peu plus beau. Littéralement comme ça. Et, non, j'ai dit, madame, on ne peut pas s'arrêter là. Ce serait un malheur, ça, ce serait horrible. L'unique idée que vous avez de moi, c'est que je suis à peu près beau. Et je prie pour elle, jusqu'au moment où elle me dit, stop! Pourquoi? Vous êtes beau, qu'elle me dit. Elle était complètement guérie. Complètement guérie. Les deux yeux. Alléluia! Pour être certain, je lui dis, mets ton œil là, ta main là, sur l'autre, et pour voir que tu viens encore bien avec le normal. Elle voyait bien des deux yeux. Complètement. Mais la chose est ceci. Imaginez-vous que ce jour-là, je m'étais dit, Seigneur, on était là, il y avait peut-être 2 000-3 000 personnes. J'ai dit, oh, tu te rends compte, Seigneur, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais c'est dans ces moments-là que l'on montre à Dieu qu'on va prendre sa parole au mot et on va croire ce que l'Éternel Dieu dit. Alléluia. C'est comme ça que mon épouse et moi, nous avons vu beaucoup de guérisons. Nous avons vu beaucoup de personnes guéries. Mais savez-vous quoi? Tout ça, c'est tellement bon. Mais il n'y a rien de plus beau que de se lever et d'obéir au Seigneur. Dans quoi que ce soit qu'il demande. Amen. Dieu dit obéis. Obéir à Dieu et pardonnez ceux qui vous offensent, ceux qui vous ont fait du mal. Obéissez à Dieu et payez vos dettes. Un jour, quelqu'un vient vers moi. Il en avait pour plusieurs millions de dettes. Et pendant qu'il avait ces millions de dettes, il dit, Pasteur Donato, est-ce que c'est bon si je rêve pour un grand yacht? Alors, il n'y a rien de mal de rêver pour un grand yacht qui coûte peut-être 30 ou 40 millions. Mais je dis d'abord rêve pour que tu payes tes dettes. Alléluia. On est d'accord, n'est-ce pas? Rêve d'abord, rêve que tu payes tes dettes. Ah, moi, je n'aime pas payer mes dettes. C'est beau de rêver le grand yacht. Moi, j'aime les grands yachts. Mais j'aime aussi rêver que toutes mes dettes soient payées. Parce que quand je rêve que mes dettes soient payées, ça veut dire que je suis en train de rêver ce que Dieu me dit. Dieu me dit, payez mes dettes. Hans, la Bible dit que je ne dois même pas avoir de dettes. Amen. Si ce n'est que d'aimer mon prochain. Amen. Non, obéissez à Dieu et dites, je suis désolé quand vous avez offensé vous-même quelqu'un. Amen. Obéissez à Dieu et dites, je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Alléluia. Amen. La Bible dit, Marie. Elle est dure celle-là. Marie! Elle est trop dure, celle-là. Marie! Aimez vos femmes. Maintenant que ce n'est pas dur, c'est super! Alléluia! Moi, j'ai déjà vu tous les hommes, déjà, ils étaient déjà en train de dire, non, non, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est comme un des amis à moi qui explique que sa femme, c'est un pasteur, il dit, oh tu sais, ma femme, chaque fois qu'elle parle avec moi, elle se met à genoux. Oui, oui. Ah oui, comment elle fait? Oh, c'est simple, il dit, elle se met à genoux, elle enlève les couvertures du lit et en dessous, elle dit, sors de là, d'en dessous du lit, trouillard. Sors de là, d'en dessous du lit, peureux. Non, je peux vous assurer, ma femme, je n'ai pas peur de ma femme. Mais je peux aussi vous assurer, ma femme n'a pas peur de moi. On est un tous les deux. Amen. Et c'est important d'être un tous les deux. Alléluia. Hein? Quelqu'un me demande, mais qui est plus grand, elle ou toi? Moi, je dis toujours, c'est elle. Elle dit toujours, c'est lui. Amen. Et ça enlève beaucoup, beaucoup de tension dans la maison. Amen. Non, aimez-nous, aimons-nous les uns les autres. Aimons nos femmes, aimez les maris. Amen. Il y a tellement de bénéfices pour l'obéissance. Amen. Et Dieu nous demande d'obéir dans tous les domaines de la vie. Les dîmes, les offrandes, de faire sa volonté, être dans le centre de la volonté de Dieu. Hallelujah. La Bible parle d'imposer les mains aux malades. Amen. Vous savez, il y a des gens qui disent, oui, mais Dieu, j'aime pas aller dans certaines églises, il fait trop de bruit. Vous savez, le seul endroit où il n'y a pas de bruit, c'est le cimetière. Amen. Alors là, il fait pas de bruit. Mais la Bible dit que partout dans la Bible, c'est écrit que là où il y a de la vie, il y a du bruit. Alléluia. Là où il y a de la vie, il y a du bruit. Amen. Là où il y a de la vie, il y a du bruit. La Bible dit, criez, lancez des cris de joie. Amen. Dans certaines églises, les cris de joie, c'est comme ça. Quand j'ai commencé l'église à Lugano en Suisse, c'était comme ça. Lancez des cris de joie. Je me suis dit, oh, je me dis, Seigneur, c'est un cimetière ici. Les gens n'osaient pas lever les mains. Ils n'osaient presque pas ouvrir la bouche. Vous faisiez une petite blague. Ils étaient comme ça. Et j'ai dû expliquer au fur et à mesure, année après année, mais l'église, ce n'est pas le cimetière. Je sais que dans beaucoup d'églises, il y a un cimetière à côté. Mais pas chez nous. D'ailleurs, je mettrai dans mon testament, le jour où je quitterai l'église, une des conditions, c'est ne construisez jamais le cimetière à côté de l'église. Il y a la vie dans la présence du Seigneur. Il y a de la vie, ça bouillonne de vie. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu les abeilles dans les seins d'abeilles? Vous croyez que c'est silencieux? Non, c'est... Ça vit! Et il y a la vie partout! Alléluia! Et dans beaucoup d'églises, on n'obéit même pas le Seigneur quand il dit « Lancez des cris de joie vers l'Éternel. Élevez vos mains vers l'Éternel. Battez des mains. » Et puis, au bout d'une heure, pardon, 20 minutes de cimetière, on se demande pourquoi il n'y a jamais rien qui se passe dans notre église. Vous voyez, il y a un principe important, et on va terminer avec ça. La vie appelle toujours la vie. Amen. Hallelujah. La vie appelle toujours la vie. Et là où il y a de la vie, Dieu aime venir. Parce que Dieu est la vie. Alléluia. Dieu est vie. Amen. La vie appelle toujours la vie. Et donc c'est important pour nous, comme vous l'avez fait ce matin, qu'on puisse agir dans la vie, obéir le Seigneur dans la vie et élever le nom de l'Éternel et dire, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Alléluia. Et en toute chose, je marcherai dans la vie et dans la vie. Amen. Levons-nous s'il vous plaît et chantons encore ensemble. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva, boum, boum. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Boum! Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent et la pluie. Le vent souffle. La pluie tomba, le vent souffla et la pluie tomba et la maison résista. Alléluia! 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 Et la clé, c'est de construire sur l'obéissance de Jésus-Christ. L'obéissance à la parole de Dieu. Si nous voulons que notre vie résiste à toutes les temps, écoutez, les tempêtes viendront toujours. Mais les maisons ne résisteront que si nous marchons dans l'obéissance. Amen. Père, nous te remercions beaucoup. Waouh, nous te remercions beaucoup parce qu'il y a tellement de choses que tu veux nous dire pendant ces quatre, cinq réunions ensemble. Et nous allons être bénis, Seigneur. Je m'attends déjà à ce que tu vas dire ce soir, et lundi soir, et mardi soir, et mercredi soir. Je te remercie, Père, parce qu'il y a tellement de choses que tu veux parler dans notre cœur, pas dans la condamnation, mais dans la joie, alléluia, où on peut apprendre des choses sur nous tout en riant, amen. hein, tout en étant heureux, et dire « Ah, c'est pas mal celle-là, waouh !» Et de dire « Seigneur, je vais t'obéir, je vais marcher dans l'obéissance, parce que l'obéissance, ça rapporte dans le nom de Jésus. » Amen. Soyez bénis, pasteur. Hallelujah.